Let's see what we got. All the way up. Go! Here's Chauncey Phillips. Here it is. He's got it! He's got it! Chauncey Phillips hits the three.
With a steal and the drive. Lays it up! Lays it in! Count that, baby! And a foul!
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les escales des chroniques de Motor City. Habituellement, les chroniques, c'est votre podcast dédié à l'histoire, à la culture et trois Pistons. Mais aujourd'hui, on continue notre série d'escales qui sont des histoires qui dépassent le cadre des Pistons et qui nous font voyager dans tous les États-Unis. Aujourd'hui, je vous propose une escale à Forest City, à Cleveland, dans l'Ohio, pour parler des Cavaliers et plus principalement de Ted Stepien, propriétaire de la franchise de 1980 à 1983. Une période assez courte donc, mais une période assez savoureuse, puisqu'en seulement 3 ans, Ted Stepien a eu le temps de devenir le pire propriétaire de l'histoire de cette ligue. Et peut-être d'ailleurs que depuis quelques secondes, Stepien, ce nom, ça vous dit peut-être quelque chose, vous l'avez peut-être entendu dans un autre contexte. Eh bien oui, sans doute dans le cadre de la Stepien Rules, cette règle en NBA qui interdit aux franchises d'échanger leur choix de draft sur 2 années consécutives. Parce que oui, Ted Stepien a fait tellement n'importe quoi sur son passage aux Cavaliers que la Ligue a même dû créer une règle qui porte officieusement son nom pour éviter que d'autres propriétaires fassent les mêmes erreurs que lui. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait qu'en NBA, il y a eu et il y a encore pas mal de propriétaires catastrophiques, mais quand même, Stepien, c'est le seul à jamais avoir eu une règle à son nom. Ted Stepien, en fait, c'est un personnage extrêmement controversé, qui a eu de mauvaises décisions sportives, qui a changé trop régulièrement de coach et qui a mis le futur de sa franchise en péril. À cause de lui, les Cavaliers ont raté un nombre incroyable de joueurs talentueux et pire, auraient même pu changer de nom ou carrément déménager. Vous savez que j'aime raconter ces histoires un peu incroyables dans les chroniques, donc je pense que vous allez apprécier ce podcast sur Ted Stepien. Imaginez le pire propriétaire que vous avez en tête là maintenant tout de suite et rajoutez 2 ou 3 niveaux de bêtises et vous atteindrez peut-être Ted Stepien. Ça va nous donner aussi l'occasion de parler des Cavs dans ce podcast et plus principalement des Cavs des années 80 qui sont relativement peu connus en fait, à part à partir de 1987 quand Mark Price arrive comme joueur et Lenny Wilkens comme coach, on ne parle pas souvent des Cavs de cette époque-là. Donc, notre escale à Forest City commence maintenant et à la fin de ce podcast, vous aurez sûrement un nouveau personnage NBA que vous pourrez détester. Allez, c'est parti! Et avant de commencer notre chronique, je vous rappelle que cette saison, les chroniques de Motor City sont affiliées au NBA League Pass. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, c'est simple. Dans la description de ce podcast, il y a un lien menant vers l'inscription au NBA League Pass. Ce lien, c'est le nôtre, celui des chroniques de Motor City. Donc, si vous comptez vous abonner au NBA League Pass pour la saison, faites-le avec ce lien. On récupère une petite partie de la somme, comme toute affiliation, mais surtout, on montre à la NBA que la communauté est assez forte pour avoir peut-être un peu plus de poids pour la suite. Allez, on commence notre histoire à la toute fin des années 70. Les Cavaliers existent depuis presque 10 ans et globalement, c'est une équipe très moyenne. Bill Finch, futur champion avec les Celtics, commence là sa carrière de coach dans cette équipe, dès sa création d'ailleurs, et passe 9 saisons à Cleveland. Au milieu, il y a un titre de coach de l'année en 1976, l'année où les Cavs arrivent en finale de conférence, mais malheureusement, c'est à peu près tout. La franchise n'intéresse pas. Les résultats sont négatifs et l'équipe change régulièrement de main. Puis, en 1979, Ted Stepien, propriétaire minoritaire de l'équipe de MLB de Cleveland, se présente pour acheter les Cavs. Stepien a fait fortune dans la pub et veut maintenant se lancer dans le basket. Il a commencé par le softball, sport en vogue dans les années 70, pour lequel il a créé la North American Softball League, dans laquelle il détenait 6 des 8 équipes. Et pour faire parler de cette ligue, il avait notamment imaginé un événement publicitaire au cours duquel il a lui-même lâché des balles de softball du 52e étage de la Terminal Tower de Cleveland, des balles censées être rattrapées plus bas par ses receveurs. Sauf que ces balles lancées du 52e étage ont dépassé les 200 km/h en tombant et ont endommagé des voitures et même blessé des curieux qui assistaient à l'événement. Bref, voilà, nous on revient à notre NBA. Et après plusieurs mois de tractation, Ted Ted Tepien rachète 37% des Cleveland Cavaliers pour 2 millions de dollars en 1980, puis il continue à acheter de plus en plus d'actions jusqu'à ce qu'il possède 82% de la franchise. Et immédiatement, Ted Tepien se montre être un propriétaire qu'on peut qualifier d'excentrique si on veut être gentil, voire de carrément vulgaire en réalité. Quand un journaliste du Akron Beacon Journal lui demande un rendez-vous pour écrire un article, Ted Tepien lui propose de venir chez lui pour profiter de la piscine et pour regarder des films porno. Voilà, le journaliste déclinera, mais Tepien l'invitera quand même pour des auditions de Pom Pom Girl que Tepien supervisera dès son arrivée. Et pour info, en rachetant l'équipe, il a immédiatement rebaptisé les cheerleaders The Teddy Bears. Voilà, vous avez un peu cerné le personnage. En fait, au fil du temps, on découvrira un homme sexiste qui, par exemple, quand il présentait sa propre fille Nancy aux autres hommes, leur demandait s'il ne trouvait pas qu'elle avait de beaux seins. Et puis, c'était même un homme carrément raciste, puisqu'il avait un jour dit à la presse qu'avoir plus de joueurs blancs, ça serait bénéfique d'un point de vue marketing, mais que s'il avait 11 noirs et qu'il remportait un titre, eh bien, ce serait formidable. Voilà, on va assez vite revenir au basket, mais je pense que c'était utile de présenter le bonhomme avant toute chose. Comme ça, on sait un peu où on met les pieds. Bref, quand Tepien prend la tête de l'équipe en avril 1980, la saison des Cavs se termine avec Stan Albeck comme coach, qui a débarqué à l'été précédent. Et pour leur première conversation, Tepien lui annonce qu'il veut changer d'entraîneur et donc se débarrasser de lui. Ce qu'il fera quelques semaines plus tard pour engager Bill Musselman, ancien coach en ABA. Sauf qu'avec Musselman, eh bien, les choses ne vont pas bien se passer. Musselman ne gère pas bien ses rotations, fait jouer certains joueurs l'intégralité du match et d'autres pas du tout, et manque globalement d'organisation. Ses entraînements ne ressemblent à rien et il ne connaît pas les adversaires qu'il affronte. Alors, après 71 matchs et seulement 25 victoires, Ted Tepien le vire pour le remplacer par Don Mellany, l'actuel GM. Mais Tepien garde quand même Musselman dans l'organigramme des Cavs et enfin même son bras droit, ce qui va avoir une importance pour la suite. Mais avant de continuer cette valse des entraîneurs, parlons un peu de ce qui a fait la légende, entre guillemets, de Ted Tepien, à savoir son rapport à la draft. En fait, bien qu'il ait pris la tête de l'équipe en avril 1980, Ted Tepien avait enclenché le processus d'achat dès la fin 1979. À partir de là, à partir du moment où on sait que c'est lui qui va racheter la franchise, il commence à influencer la politique sportive des Cavs. Et en février 1980, il est le cerveau, si on peut dire, d'un échange avec les Lakers. Ted Tepien veut un joueur des Lakers, Don Ford, qui joue 20 minutes par match pour 6 points de moyenne, pourquoi pas. Et pour ça, il envoie à Los Angeles Butch Lee, mais surtout le premier choix de draft des Cavs de l'année 1982. Et là, je suis obligé de vous spoiler la suite, mais à cause de la nullité des Cavs dans la saison à venir, eh bien ce choix deviendra le premier choix de la draft 1982. Avec lui, les Lakers choisiront James Worthy, futur Hall of Famer, triple champion NBA et MVP des finales 1988.
This was the view from the top as thousands of spectators gathered at the foot of Terminal Tower for the great softball drop, the highlight of a series of events marking the 50th anniversary of our city's tallest building. Inside the tower to make the tosses was Ted Tepien, owner of the professional softball team bearing his name. Down below were six of his players hoping to make the immaculate reception. But three errant tosses proved hazardous to one car and two observers, among them 24-year-old Gail Falinski of Strongsville, whose broken wrist will long remind her of the lofty lob.
Mais c'est pas fini. Juste avant la saison 1980, en septembre précisément, Ted Tepien monte un échange avec Dallas pour récupérer Mike Bratz, un meneur de jeu qui tourne à 8 points et 2 passes, qu'il récupère en échange d'un nouveau premier tour de draft, cette fois-ci le tour de draft 1984. Là encore, je vous spoil, mais ce choix deviendra le pick numéro 4 pour lequel Dallas choisira Sam Perkins, pilier des Mavs des années 80. En fait, vous comprenez que pour Ted Tepien, les premiers tours de draft, c'est juste une monnaie d'échange plus ou moins utile pour récupérer des joueurs. Et les Mavs, eh ben, ils ont bien flairé le coup et ils montent un nouvel échange un mois plus tard avec les Cavs. Ils envoient avec grand plaisir Richard Washington, qui ne jouera que 77 matchs à Cleveland, et Jerome Whitehead, encore pire, puisqu'il ne portera le maillot des Cavs qu'à 3 reprises, contre Bill Robinson, mais surtout les premiers tours de draft des Cavs de 1983 et 1986. Alors en 83, ce 11e choix deviendra Derek Harper, alors qu'en 1986, ce pick sera le 7e choix de la draft et Roy Tarpley, qui n'aura malheureusement pas la carrière NBA qu'on lui promettait. Donc, si vous avez bien compté, les premiers choix de draft 1982, 1983, 1984 et 1986 des Cavs ont déjà disparu et la NBA est obligée de dire stop. Le commissionneur de la Ligue, Larry O'Brien, intervient pour interdire temporairement les Cavs de procéder à d'autres échanges. Pourtant, en février 1981, la NBA va valider un nouvel échange entre Cleveland et encore une fois Dallas. Les Mavs envoient Geoff Houston, honnête meneur qui est retourné à 16 points 5 passes, contre Chad Kinch et surtout le premier tour de draft 1985 des Cavs. Et encore une fois, eh bien Cleveland ratera un super joueur puisque ce choix deviendra un pick 8 et Dantlef Schrempf, deux fois meilleur 6e homme et All NBA. Et puis enfin, le 20 mai 1981, Ted Sepien monte un trade pour récupérer Scott Wedman des Kings en leur envoyant eh bien, ce qui lui reste, son premier tour de draft 1981 qui deviendra le 17e choix et Kevin Lauder. 1981 aux Kings, 1982 aux Lakers, 1983, 1984, 1985, 1986 aux Mavs, Ted Sepien a dilapidé 6 premiers tours de draft consécutifs en à peine un an. Alors maintenant que je vous ai raconté ça, regardons un peu ce que les joueurs récupérés ont donné à Cleveland et surtout ce que les Cavs ont perdu à cause de Ted Sepien. Déjà, aucun des joueurs récupérés lors de ces échanges ne sera un jour All-Star. Aucun, même pas une sélection. Par contre, avec tous les tours de draft balancés, les Cavaliers ont raté Derek Harper, James Horsey, Detlef Schrempf, Roy Tarpley et Sam Perkins. Et dans un article que je vous mets en description de ce podcast, il y a un analyste qui s'est amusé à comparer la stat des win share entre les joueurs récupérés par Sepien et les tours de draft abandonnés dans l'histoire. Si vous ne savez pas trop, la win share, c'est une statistique avancée qui essaye de répartir en quelque sorte les victoires d'une équipe entre tous les joueurs qui la composent. On va prendre un exemple simple. En 1989, l'année du premier titre des Pistons, eh bien Bill Laimbeer a 9 de win share, meilleur chiffre du roster. En gros, il a apporté plus ou moins 9 victoires lui-même. Voilà. Et comme les Pistons avaient un gros collectif, eh bien on a juste derrière Rodman à 8,1, Asia à 7, Joe Dumars à 7. Vous avez globalement compris l'idée. Pour citer le record sur une saison, c'est 25,4 win share et c'est pour Karim Abdul-Jabbar en 1971-1972. Alors, on peut débattre de cette stat, on peut débattre sur le fait d'attribuer le succès d'une équipe à des joueurs individuels, mais là, c'est surtout pour illustrer bien les pertes de Ted Sepien. Donc, en échangeant ses premiers tours de draft de 1983 à 1986, Ted Sepien a récupéré 7 joueurs qui lui ont rapporté le magnifique total sur l'entièreté de leur passage à Cleveland de 16 winshares. Voilà. Et sur la même période, les joueurs cités plus haut, les Derek Harper, James Forsey, etc., ont rapporté à leurs franchises respectives 425 winshares. Et comme vous êtes très bon en maths, eh bien vous avez compris que les moves de Ted Sepien lui ont fait perdre moins 909 winshares. Et pour qu'on arrive à bien se figurer ce que ça représente, l'auteur de l'article a joué au même jeu des comparaisons avec ce qui est considéré comme les trois plus mauvaises décisions de l'histoire de la draft NBA, à savoir Portland qui prend Sam Bowie au lieu de Jordan en 1984, les Clippers qui prennent Michael Olowokandi au lieu de Vince Carter en 1998, et enfin nos Pistons qui choisissent Darko Milicic plutôt que Carmelo Anthony en 2003. Là encore, on peut débattre de ses choix, mais ça sert juste à illustrer nos propos. Eh bien, en ratant Jordan, les Blazers ont fait un différentiel de moins 187 winshares. En faisant l'impasse sur Carter, les Clippers affichent un beau moins 120, alors que les Pistons s'en tirent avec un moins 93 en choisissant Darko Milicic. Et là encore, eh bien, vos calculs sont bons, puisque ça donne moins 400 winshares tout pile pour ces trois franchises. Et rapporté au moins 409 des Cavs, eh bien ça signifie donc que les trois pires décisions de l'histoire de la draft, dont un qui implique quand même d'avoir raté Michael Jordan tout de même, sont quand même moins préjudiciables que les manœuvres de Ted Sepien pour les Cavs.
Let's take a look at the 1998 draft class, which featured one of the worst number one overall picks ever.
The Los Angeles Clippers selected Michael Olowokandi first overall in the 1998 NBA draft, hoping to build their team around what they hoped to be a dominating center. However, injuries led to a career lasting just 9 seasons with 3 different teams.
Voilà, je crois qu'on a été assez complet sur cette histoire de pick de draft. Et bien évidemment, vous doutez que sur le terrain, les choses ne sont pas plus brillantes. Au début de la saison 81-82, comme je vous l'ai dit, Delaney a remplacé Musselman comme coach, mais Musselman est resté le bras droit de Ted Seppien, et à partir de là, il va passer son temps à critiquer le nouveau coach à chaque fois que c'est possible. Et comme la saison débute de façon catastrophique avec 4 victoires pour 11 défaites, Musselman réussit à faire licencier Delaney après 2 mois de compétition. Pendant 3 matchs, et pour 3 défaites, l'intérim est tenu par l'assistant Bob Kloppenburg avant que Seppien n'aille chercher un assistant des 76ers, quelqu'un qu'on connaît bien ici, à savoir Monsieur Chuck Daly. Daly n'avait jamais été head coach avant et il sait assez bien que la mission qu'on lui propose est sûrement casse-gueule, mais Seppien lui offre un contrat de 3 ans avec 2 années garanties. Daly valide, devient le coach des Cavs, mais ne déménage pas toute sa famille à Cleveland, préférant d'abord vivre à l'hôtel pour voir comment les choses se passent. Et d'ailleurs, pendant le passage de Daly, Ted Seppien va encore se faire avoir, mais cette fois-ci dans la quête de récupérer des picks, puisque oui, il n'en a plus vraiment. En février 1982, il récupère Phil Hubbard, Paul Mokeski, le premier tour de draft 1982 et un deuxième tour de draft des Detroit Pistons, en leur cédant Kenny Carr, mais aussi un pivot remplaçant que Chuck Daly, lui, ne voulait absolument pas perdre, à savoir un certain Bill Laimbeer. Bref, côté terrain, malheureusement, Daly ne fait pas de miracle. Après 41 matchs, il n'a fait gagner cette équipe que 9 fois et malheureusement, eh bien, licencié. Ted Seppien lui paye ainsi le reste de son salaire et celui de la saison suivante. C'est déjà le 3e entraîneur utilisé cette saison à Cleveland et il reste encore 23 matchs avant de finir l'exercice. Et qui est-ce qui va devenir le 4e coach des Cavs lors de cette saison 1981-1982 établissant un record? Eh bien, Bill Musselman, évidemment, même s'il avait déjà montré qu'il n'avait pas la stature d'un head coach NBA. Sans surprise, Musselman ne fera pas mieux que Daly et les autres. Avec lui, les Cavaliers ont un bilan de 2 victoires pour 21 défaites et perdent même leurs 19 derniers matchs de la saison. Complètement hors du coup, Seppien sert du champagne dans les vestiaires après le dernier match de la saison, sans trop qu'on sache pourquoi. Mais la 3e saison de Ted Seppien, eh bien ça va être la pire. Après avoir utilisé 4 coachs en 81-82, il ne garde pas Musselman et le remplace par Tom Nilsek pour la saison à venir. Mais les échecs répétés, les trades foirés, l'affluence en baisse font que Ted Seppien est de plus en plus discuté. La franchise perd de l'argent, les Cavs sont la dernière équipe de la Ligue en termes de fréquentation et Seppien cherche le conflit en permanence. À la presse, il annonce qu'il pourrait changer le nom de l'équipe en Ohio Cavaliers pour se détacher progressivement de Cleveland. Puis il indique qu'il souhaite jouer des matchs à domicile dans d'autres villes qu'il cite spontanément, Columbus, Pittsburgh et Buffalo. Et puis, en mars 1983, alors que les Cavs n'ont finalement gagné que 22 matchs cette saison-là, Ted Seppien annonce publiquement son intention de transférer l'équipe à Toronto, disant avoir trouvé plusieurs partenaires internationaux. Il monte une conférence de presse au Canada, lors de laquelle il présente sa future équipe des Toronto Towers et montre même le logo de la franchise à venir. Mais cette opération de déménager les Cavs à Toronto va être très coûteuse et Ted Seppien doit vendre Nationwide Advertising, sa boîte de publicité, pour financer l'opération. Et là, c'est son avocat, Kent Schneider, qui va mettre un frein à tout ça. À ce moment-là, c'est la santé financière de son client qui est en jeu, donc pour lui, hors de question de faire ce move. Il contacte les frères George et Gordon Gund. Les frères Gund sont les propriétaires du Richfield Colosseum, la salle des Cavs, et n'ont aucun intérêt à voir la franchise déménager à Toronto. Une négociation se met en place pour qu'ils rachètent la franchise, mais la situation sportive précaire des Cavaliers reste inquiétante pour eux. Et c'est à ce moment-là que David Stern, avocat de la NBA, va intervenir en convainquant les autres propriétaires de la Ligue de vendre aux Cavs 4 nouveaux choix de draft du premier tour pour rattraper les bêtises de Ted Seppien. C'est ainsi que dès 1983, il y aura un choix 24 au premier tour alors qu'il n'y a à l'époque que 23 équipes en NBA. Les frères Gund acceptent le deal et rachètent les Cavs à Ted Seppien. Le pire propriétaire de la NBA n'est plus dans la Ligue et une nouvelle page du basket à Cleveland peut commencer. Cette même année 83, la NBA crée une nouvelle règle, appelée officieusement Stephen Rules, qui interdit aux franchises NBA de ne pas avoir de premier tour de draft deux années consécutives. En gros, vous pouvez changer votre premier tour de l'année X, mais pas celui de l'année X plus 1. Je vous donne un exemple. Dans le trade de Kevin Durant en 2023 entre les Nets et les Suns, Phoenix a lâché aux Nets ses picks 2023, 2025, 2027 et 2029, spécifiquement à cause de la Stephen Rules. Mais en 1983, cette règle n'a pas fait beaucoup de bruit, puisqu'en fait, à part Ted Sapiens, qui était complètement fou et désespéré de gagner tout de suite, les propriétaires n'échangeaient quasiment jamais leur premier tour de draft. Mais finalement, la ligue a changé, et désormais, avec les trades réguliers de superstars, les franchises sont capables de mettre en péril leur avenir à moyen terme en envoyant un paquet de premiers tours de draft. Finalement, on peut dire que Ted Sapien a servi à la NBA pour savoir ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Au tout début des années 80, avant Magic, avant Jordan, la Ligue était surtout dans sa période post-NBA et avait besoin de crédibilité, donc de propriétaires fiables, discrets et surtout pas impulsifs à la Sapien. Parce qu'au-delà des tours de draft perdus qui ont fait sa légende, eh bien Ted Sapien, c'est en 3 saisons, 66 victoires pour 180 défaites, avec 7 changements de coach. Les fans abandonnaient progressivement la franchise avec une fréquentation historiquement basse lors de la saison 82-83 avec seulement 3915 spectateurs en moyenne à Cleveland. Voilà, je crois que c'est sur ce constat qu'on peut terminer ce podcast. J'avais très envie de vous parler de ce triste personnage qui était Ted Sapien et de son rôle indirect pour assainir la NBA. On peut en parler tranquillement puisqu'aujourd'hui, de telles folies ne sont plus possibles, notamment à cause de la Stephen Rules, mais aussi à cause des protections des choix de draft qu'a mis en place la NBA plus tard. En tout cas, j'espère que cette escale à Forest City vous a plu et j'en profite pour saluer les fans des Cavs. Toutes les chroniques de Motor City, vous le savez, sont à retrouver sur les bonnes applis de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music et globalement toutes les applis qui gèrent les flux RSS. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir le podcast en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, ça donne toujours de la force. Cet épisode est également dispo en même temps sur YouTube, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous appréciez cette plateforme. Je finis par vous rappeler l'affiliation entre les chroniques et le NBA League Pass, vous avez toutes les infos dans la description du podcast. Moi je vous remercie une nouvelle fois pour le soutien, et en attendant le prochain podcast, je vous invite à me retrouver sur Twitter, mais aussi sur Thread, @MotorCityPod. Merci encore pour votre écoute. Et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.